orgue, des grandes pièces, je pense à la passacaille pour orgue de Bach, qui sera jouée donc sur un petit instrument. Donc j'invite vraiment les gens à... Il y a une accoutumance également, parce que les premières minutes sont souvent difficiles dans ce genre de contexte. Et puis au bout de quelques minutes, les oreilles s'affinent un peu, s'aiguisent, et on devient complètement attentif au moindre bruissement, au moindre mouvement du musicien. Et c'est assez incroyable. C'est le contraire de certaines musiques dont tu parlais, amplifiées, où on est un peu dans le son, on est obligé d'être dedans. Là, on va vers le son et on rentre progressivement dedans. C'est une autre approche.
Bac intime qui se déroulera le samedi 21 à 16h au Musée des Arts et d'Archéologie d'Évreux.
Oui.
On continue avec Bach, Jean-Sébastien Bach, Te Deum.
Oui, alors c'est un programme qui...
Ça, ce sera à l'église Saint-Aurin.
À l'église Saint-Aurin, et là, cette fois-ci, Jean-Luc Haut retrouvera le bruit, puisqu'il va pouvoir jouer sur le grand orgue de Saint-Aurin, peut-être une pièce ou deux communes d'ailleurs, et c'est un programme autour du choral et autour de la musique luthérienne. Bach, on parlait de Handel tout à l'heure, qui était donc plutôt profane, je dirais saxon profane, ayant écrit de la musique religieuse, on pense au Messie, des choses comme ça. Mais Bach, lui, il a écrit 250 cantates pour les offices de tous les dimanches, hein, notamment quand il était à Leipzig. Il a écrit des passions, deux qui sont conservées, et puis quatre qui ont dû disparaître. Il a écrit des messes, il a écrit... Bon, c'était avant tout un compositeur de musique religieuse. Pas seulement. Il a écrit des concertos pour clavecin, il a écrit le clavier bien tempéré, il a écrit plein de choses. Mais il faut savoir que cette part religieuse était fondamentale pour lui. Et que lorsqu'il écrivait une pièce profane, malgré tout, il avait toujours cette espèce de foi en lui qui faisait que chaque note avait du sens et était porteuse presque d'un texte. Et ça, c'est tout à fait intéressant. C'est ce qui m'a amené à concevoir ce programme. C'est un programme qui est bâti sur donc de la musique d'orgue au départ et des chorales de Bach. Des chorales. Donc un choral, c'est une mélodie qui avait été quelquefois inventée par Luther avec une mélodie, donc avec un texte en allemand, et l'accompagnement, les voix d'accompagnement qui sont écrites pour l'orgue. Donc ce sont des morceaux qui sont écrits pour 4-5 voix superposées, et dans lesquelles il n'y a pas de texte audible. La mélodie est reconnue par les fidèles, qui quelquefois le chantent avant, chantent ce choral-là, puis ensuite c'est joué par l'organiste. J'ai proposé de faire les deux en deux, les deux en un. C'est-à-dire que j'ai quelquefois fait chanter le choral par un pupitre du chœur Ars Viva. D'autres pièces, j'ai fait chanter et j'ai mis le texte du choral sur les 4 ou 5 voix de la polyphonie de l'orgue. Ce qui fait qu'on aura quelque chose qui va se décupler, qui va s'amplifier, puisqu'on aura à la fois la musique d'orgue, mais toutes les notes qui sont écrites dans la musique d'orgue, et également toutes les parties vocales. Donc c'est assez, disons, assez original, et c'est un programme qui nous permettra de comprendre un peu mieux comment cette musique, non pas a été faite, mais tout ce qu'il y a en elle. C'est-à-dire que la musique de Bach a l'avantage d'être extrêmement riche, extrêmement variée. On parlait de lui tout à l'heure, mais lorsque Jacques Loussier a fait des adaptations de Bach pour, en jazz, ça fonctionnait. Lorsque certains musiciens contemporains réutilisent Bach, on le reconnaît toujours Bach. C'est un compositeur tellement riche que tous les traitements sont envisageables. Et que je pense que dans sa musique, il y a une profondeur qu'on ne peut pas imaginer. On peut toujours aller un petit peu plus loin. Et là, le fait, par exemple, de mettre un texte sur des parties instrumentales devient tout à fait naturel. Parce que c'est comme si lui, il avait pensé le texte avant, et qu'il l'avait enlevé, et qu'il était encore en filigrane. Et c'est pas très difficile en réalité. Ça tombe presque naturellement. Chaque phrase est pensée, chaque phrase musicale est pensée comme une phrase verbale ou littéraire. C'est absolument incroyable. Et le programme s'appelle Te Deum parce que le Te Deum, c'est une pièce qui en général finit les offices ou finit les grands moments, les événements. Et il y aura un Te Deum pour orgue seul d'un compositeur qui était un maître pour Bach qui s'appelait Buxtehude, que jouera Jean-Luc Haut. Et pour finir, j'ai fait le même travail que ce que j'évoquais sur cette pièce, ce Te Deum, qui est une pièce pour orgue qui dure à peu près 8-10 minutes, sur laquelle j'ai ajouté donc ces parties vocales. et qui ont fait une pièce beaucoup plus majestueuse, et je dirais que c'est une création, en tout cas hébroïcienne, et une création que ce Tédéum de Bach. Donc c'est un programme original, il y aura un peu de musique contemporaine aussi, il y aura une pièce qui va être à partir d'un choral de Bach, que nous faisons une espèce de démembrement, je dirais, de la pièce, ce qui fait que progressivement, il y a une polyphonie extrêmement contemporaine qui s'établit, chaque choriste faisant à son rythme la mélodie qui lui est dévolue, et c'est vraiment quelque chose d'assez original.
On termine le premier week-end, oui. Si tu veux bien. On va essayer de gagner un petit peu de temps. On est spécialiste de déborder, hein.
Je suis désolé.
Non, mais je t'en prie. Mais non, mais c'est intéressant. On découvre tout un tas de choses. 22 mars.
Rupture totale. Rupture totale.
Voilà, avec c'est invitation à la danse.
Oui, invitation à la danse. Et nouvelle invitation pour un grand pianiste qui s'appelle Guillaume Fabre, qui est venu, c'est la troisième année. L'an passé, il avait fait 3 concerts avec nous. Et là, il vient pour un programme invitation à la danse avec donc de la musique pour piano allant de Handel jusqu'à Stravinsky. Donc, programme varié avec du Ravel, du Kodály, du Stravinsky, du Tchaïkovski et du Handel. On va peut-être écouter un morceau de Prokofiev.
Eh bien, c'est ce que j'allais te proposer, ouais. Ce qui nous fera la conclusion du premier week-end.
Exactement. Donc, Guillaume Fabre dans le Precipitato de la 7e sonate de Prokofiev.
Prokofiev, c'était la sonate numéro 7. Hors antenne, je posais la question très naïvement à Bruno de me le resituer précisément dans le temps, et tu me disais l'entre-deux-guerres.
Au milieu du XXe siècle, oui, voilà. Tout à fait, on est sur de la musique du XXe siècle, donc la musique très proche de nous, très proche de nous.
Et ben une autre qui est très proche de nous. Oh, j'adore ces transitions pourries. C'est vraiment. Non, mais t'as vu, ça fait grand média, ça, tout de suite. Hein.
Ouais,
une autre
ouais.
qui est très proche de nous, c'est la Misso. C'est l'heure de te retrouver. Et toi, tu t'as été regarder un petit peu ce qui se faisait de ci, de là.
Oui. Ben, on reste dans la culture et on reste à Évreux. Mais on va parler du festival du livre Jeunesse d'Évreux avec jusqu'au 21 mars énormément d'activités, d'animations autour du thème jouer, donc jeux imaginaires et expériences ludiques qui sont autant de portes d'entrée pour lire et questionner le monde. Voilà, c'est l'idée de cette thématique cette année. On peut citer le samedi 21 mars 29 créateurs et créatrices de la littérature jeunesse qui seront présents à Évreux. C'est quand même un beau panel, de quoi faire de chouettes rencontres. Et au programme, il y a vraiment énormément de choses. Il y a des spectacles, des événements, des rencontres, des expos, des ateliers, des activités pour les tout-petits. Donc voilà, on va faire un petit tour de ce qui se passe. Ce samedi à 14h à la médiathèque Roland Plaisance, place aux petits champions de la lecture. C'est des CM1, CM2 donc qui sont en mode de concours de lecture. Donc c'est chouette d'aller les encourager. On aura la semaine prochaine différents spectacles à la médiathèque, notamment celui en partenariat avec notre invité du jour, un festival, un sacre du printemps. Le 20 mars, il y aura une lecture spectacle dessinée, Florimonde et l'affaire Coquillette. Donc c'est super sympa, super immersif. Le 21 mars, en matinée et l'après-midi, toujours à la médiathèque Roland Plaisance, c'est là que vous pourrez rencontrer les auteurs. Il y aura vraiment plusieurs créneaux, n'hésitez pas. Il y aura aussi des partenariats avec une émission de radio et donc des interviews.
Sont des petits jeunes qu'on a vus hier et que nous verrons mercredi prochain qui préparent des interviews des illustrateurs et des auteurs. Et donc c'est rigolo, ce sont les lecteurs eux-mêmes qui vont aller questionner les auteurs, les illustrateurs. Les jeunes journalistes ont entre 8 et 12 ans.
Je pense que ça va donner lieu à des questions un peu sympas et qui peuvent sortir du cadre, et donc ça doit être très chouette. Il y aura pas mal d'ateliers, notamment atelier d'art plastique à la Maison des Arts autour de la lecture. C'est les mercredis, donc c'est le mercredi 18 à 10h. Mercredi 18 à la médiathèque Roland Plaisance, atelier donc radio, toi aussi deviens journaliste, c'est comme ça que vous l'avez intitulé. Le samedi 21 mars, un atelier créatif, des mondes croisés, Japon et steampunk en 3D. Alors là, on voyage avec l'imaginaire, c'est clair.
Alors rien que dans le titre, hein. Ouais, tu mets ce que tu veux, ouais. Rien que dans le titre, tu mets ce que tu veux.
Ouais. Et puis le 21 mars, dans l'après-midi, on aura un atelier naturaliste, litternature. Donc là, pour ceux qui sont un peu plus proches, peut-être, de notre environnement. Et puis pour les tout petits, là aussi il y a vraiment énormément de choses avec une lecture spectacle d'ombre et de lumière le mercredi 18, une lecture spectacle également le 21 mars, toujours ombre et lumière. Et puis n'hésitez pas à aller voir aussi tout le programme parce que vous aurez énormément d'explications, vous aurez tous les horaires et vous pouvez profiter la plupart du temps de ces animations sur plusieurs créneaux. Donc voilà, ça aussi c'est quand même hyper intéressant pour les parents, pour pouvoir faire profiter toute la famille en fait de ce qui se passe.
Eh ben merci So d'avoir posé ton regard sur ce salon de littérature jeunesse qui s'étale cette année sur quasiment le mois de mars.
Ah ouais, c'est quasiment 15 jours, même un peu plus. Donc n'hésitez pas à aller voir le programme, c'est hyper riche.
Nous sommes toujours avec Bruno de Ludus Modalis qui porte le festival Un Sacre du Printemps qui se déroulera du 18 au 29 mars. On l'a dit, il y a une date dans le cadre du festival du livre Jeunesse, mais également deux week-ends, vendredi, oui. Samedi et samedi, dimanche. Non, vendredi, samedi, dimanche. Bon, enfin, les week-ends, quoi, en fait, tout simplement.
Oui, c'est une formule qui fonctionne. Ça fait plusieurs années qu'on a opté pour cette mouture et il se trouve que voilà, ça nous permet de fidéliser un public et de ne pas se bloquer sur une période de 6 jours consécutifs, et ouais, ça fonctionne.
Très Très bien. Je propose un extrait musical qui va nous lancer. Est-ce que c'est non, c'est pas maintenant qu'on met le tango, hein. C'est ça. Tu préfères un petit peu après ?
Oui, juste après.
C'est ça. Alors, parce que moi, je suis ennuyé là, en fait. J'ai Antoine aussi qui nous a fait une belle chronique autour de la musique. On a la programmation qu'on va dérouler.
C'est vraiment comme
ben oui, mais je te demande à toi aussi parce que t'es venu avec des morceaux. Je te propose qu'on commence avec les Corsaires.
Voilà.
Moi, c'est mon côté jeune.
Voilà. Il se trouve que ça, c'est un programme. Encore une fois, je vais dire un truc original. On est sur de la musique cette fois-ci du XVIe siècle. Il se trouve que il y avait une reine en Angleterre qui s'appelait Elisabeth Ière, et donc il y avait des gens qui parcouraient les mers du monde pour gagner des territoires et sur les galions et sur les navires de Sa Majesté Elisabeth, et que la musique était associée souvent. Il y avait des équipages et il y avait des gens qui étaient plutôt les hauts gradés, les officiers, et qu'il y avait de la musique qui était faite de manière assez régulière sur ces bateaux, sur ces navires de la Majesté. Et donc de la musique profane, des chansons, et puis de la musique religieuse anglicane. Et à partir de là, il y a tout un répertoire qui existait, et ce programme est censé restituer en tout cas une partie de la musique qui a pu être faite par ces corsaires de la Majesté Elisabeth Ière sur ces navires. Donc sont invités pour ce festival quatre jeunes chanteurs du Trinity College de Dublin, je crois, et qui viennent pour chanter donc ce répertoire à quatre voix. Alors mixte, non, puisque ce sont quatre jeunes garçons en réalité, baryton et basse, qui sont des jeunes adultes, et soprano et alto, qui sont des tout jeunes, ils doivent avoir 14-15 ans, et avec un violiste, François Joubert-Caillet, qui est un très très grand joueur de viol de gambe, actuel, et qui a conçu ce programme. La viole de gambe était l'instrument emblématique de cette musique, c'est-à-dire que le violon était associé à la musique profane, et à la musique très légère, et à la musique extérieure, et à la musique populaire, et la viole de gambe était beaucoup plus emblématique de la aristocratie et de la cour. Et donc, c'est la viole de gambe qui accompagnera ces... Donc c'est un programme, là encore une fois, très varié, avec des pièces plus populaires et des pièces sacrées.
Voilà. Qu'on retrouvera dans ce répertoire
du 27.
Les Corsaires d'Elisabeth.
Exactement. Et là, on arrive au prochain concert, peut-être celui dont tu voulais parler, qui est un concert qui sera dans un lieu qu'on n'a jamais investi pour le festival, qui est la chapelle du Conservatoire, premier partenariat, et concert de tango, alors avec des pièces de tango traditionnelles et des relectures de ces pièces par un duo. Tonia Makatsianou, qui est une pianiste grecque, et Lisandre Donoso, qui est un bandéoniste argentin. Voilà, donc grande découverte aussi pour nous. Moi, je les connais depuis un certain temps, j'ai leurs enregistrements, et là, je vais les découvrir en in situ, et je pense qu'on pourrait peut-être les écouter un petit peu là.
Eh bien, c'est exactement ce que j'allais te proposer. Ce qui est bien avec Bruno, c'est qu'il prépare l'émission, il l'anime et il dit ce qu'il faut faire. Moi, ça me va bien.
Ouais, il est bien, cet invité.
Hein. Oui, c'est ça, mais on va peut-être le garder pour la semaine prochaine, alors du coup. Donc, on passe au tango, Sentido Tango, et c'est la comparsita.
C'est cela. Thank you.
le grand classique du tango, et notamment du tango argentin, ce fameux bandoneon, oui. Qu'on reconnaît à 15 000. Le temps que So retire la rose qu'elle a mis en travers de ses dents pour danser ce tango endiablé.
C'est tellement moi.
Oui, je trouvais que ça te ressemblait tellement pas. Mais ce qui est bien avec la radio, c'est qu'on peut faire imaginer les auditeurs. Donc le temps que tu retires tes épines de la bouche, du coup, nous retrouvons un autre de nos chroniqueurs, à savoir Antoine 2.0. Vous savez, celui qui a un pied dans le présent, un pied dans le futur. C'est notre ami Antoine.
Bonjour à tous. Ce matin, on parle de grande musique dans l'émission. Et moi aussi, je voulais vous parler de ma grande musique. Mais encore une fois, ça va être à ma sauce technologique. Alors, je vous en ai déjà parlé de la génération de musique par IA lors d'une chronique dystopique où j'imaginais un festival du futur complètement boosté à l'IA. C'était en juin dernier. Un sujet très controversé puisque les plateformes de streaming musical sont envahies de contenus générés par IA. Ceci, bien souvent, dans le but de toucher les revenus des artistes légitimes. Et ce matin, je voulais vous parler d'une autre fonctionnalité que l'IA nous a apportée, le DJ IA. Alors, je vais être un peu plus précis. Si vous avez déjà vu une application de DJ, vous connaissez déjà peut-être les fonctionnalités de base d'AutoMix qui permettent d'aligner le rythme des chansons pour les mixer facilement ensemble. Ça, c'était relativement facile à faire avant l'IA, parce que repérer le rythme d'une chanson, c'est facile. Il suffit juste de compter le nombre de boom boom par minute pour ensuite adapter la vitesse de l'une des deux chansons pour que les rythmes collent. Sauf que l'IA, elle a apporté son lot d'évolution dans le domaine. Déjà, pour une transition propre en automatique, on a ce qu'on appelle le tempo, mais ça suffit pas. Il faut aussi la tonalité qui corresponde, sinon on aurait une transition désagréable à l'oreille. Puis ensuite, pour être un peu plus original que juste « je fais une transition de tempo et de tonalité en douceur », il y a eu Apple qui a ajouté l'automix sur son service de streaming qui ajoute des effets de boucle et de filtre pour ainsi faire une transition presque au niveau de David Guetta. Non, j'avise complètement, et c'est pas tout à fait le sujet. Le sujet, c'est surtout, d'une part, pour eux d'ajouter un argument en faveur de leur solution, ensuite d'ajouter un aspect agréable à l'écoute pour les utilisateurs, puis enfin de rivaliser face à certaines radios musicales qui sont mises aux playlists mixées. Par contre, dans le cadre des radios musicales, c'est légèrement moins magique. En radio, c'est un vrai producteur qui produit des blocs de 20 minutes qu'ils n'ont plus qu'à diffuser entre deux écrans pubs de 10 minutes. Enfin bref, juste pour que vous puissiez comprendre ce dont on parle depuis le début de la chronique, je vous ai trouvé deux enchaînements de mix faits par un DJ IA, avec un premier exemple avec deux titres un petit peu connus. Et je vous ai retrouvé un deuxième exemple avec deux titres un petit peu moins connus, mais qui illustrent bien le propos tout de même. Bien évidemment, ce n'est pas parfait. Par contre, la prouesse technologique me semble plutôt louable. Et personnellement, je suis plutôt fan de cette fonctionnalité qui ajoute une bataille à la guerre que se livrent les plateformes de streaming musical et les radios, elles aussi, musicales. Il est évident qu'un DJ humain aura toujours sa plus-value, dans notamment le choix des titres de son mix, le choix des transitions, puis même parfois la création de nouvelles transitions. Tout cela fait la différence, puis il faut dire que généralement le DJ, il est là pour faire danser tout un public, là où la plateforme de streaming, elle est plutôt là pour un divertissement individuel où on mâche le travail des choix de titres et de l'ordre. Voilà tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je trouve ça plutôt cool de pouvoir partager sur plusieurs courants musicaux dans la même émission. À titre perso, je pense pas qu'un genre musical surclasse un autre. Par exemple, j'ai autant aimé le dernier album de Bécard, qui contient par ailleurs quelques samples d'instruments classiques, que la bande originale du ballet Onegin. Allez, bonne journée tout le monde!
Merci Antoine pour une fois de plus nous attirer l'attention sur des trucs, moi perso, qui m'avaient déjà échappé, hein, cette histoire de mix. C'est, j'imagine que bon, forcément, quand on parle musique, IA, et qu'on s'intéresse aux musiques savantes comme Bruno, c'est, on est sur une autre
oui,
planète là.
C'est,
hein.
C'est vraiment une autre planète, mais c'est absolument passionnant, même si j'ai pas compris tout. mais c'est parfait. Bon, bon, mais c'est vrai que la musique, et comme il disait le chroniqueur, c'est extrêmement vaste, extrêmement varié, et ça permet vraiment à chacun de d'y trouver une grande profondeur, et donc c'est génial.
Et revenons sur le Sacre du Printemps, ouais. Si tu le veux bien, parce qu'on arrive sur cette fin d'émission. Il nous restait une dernière date, celle du dimanche 29 mars, qui va clore cet événement, ce festival.
Avec un fait historique, et donc ce programme qui s'appelle le Grand Embrasement, où on retrouve les musiciens qu'on a entendus tout à l'heure dans la fanfare. On écoutera peut-être un petit bout tout à l'heure, mais ils sont donc 5 instrumentistes, 4 hauts instruments, hauts et bas. J'ai expliqué tout à l'heure de quoi il s'agissait.
D'extérieur, d'intérieur.
Exactement, et percussions, pour évoquer la personnalité d'un roi. Charles VI, qui avait été déclaré en 1392 fou. Et en réalité, c'était pendant la période de la guerre de Cent Ans, et il y a un conflit franco-anglais. Alors c'est rigolo parce qu'il y a une thématique franco-anglaise, là, du coup, dans le festival, je ne l'avais pas perçu au départ. Le roi a un comportement complètement improbable, des absences répétées, et plusieurs princes et personnes sont avides de pouvoir et essaient de se placer dans le pouvoir et prendre la place de ce souverain. Et donc il y a plusieurs une période assez sombre entre les Bourguignons, les Armagnacs, différents regroupements comme ça politiques, je dirais. Et il y a une musique qui est associée à ça. Et cette musique donc va nous permettre de restituer un petit peu. Donc il y a un fait historique et ce grand embrasement politique et ce déclin de la France à ce moment-là donné va être mis en musique par les musiciens d'Into the Winds pour un programme extrêmement varié et qui donc y aura à la fois l'intérêt. On peut y aller simplement pour écouter, pour voir et pour un petit peu mieux comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc c'est on plonge vraiment dans le 14e et le 15e siècle pour ce programme qui se tiendra à l'église Saint-Michel le 29 mars prochain.
Tout à fait, à partir de 16h, oui. Si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait.
C'est ce lien quand même de la musique aux politiques quand même. Quand on dit, alors je ne sais pas si elle allait au-devant de la politique comme, ou en tout cas était revendicative comme peut être parfois certains courants musicaux dans l'époque contemporaine, mais elle est souvent reliée, comme on le disait en début d'émission, à des événements politiques, politiques ou de la vie, hein,
oui.
Alors les royautés et tout ça, c'était politique,
oui.
C'était politique quand même
oui,
aussi,
oui,
ces mouvements-là. Est-ce qu'elle avait un rôle politique, comme on pourrait le constater aujourd'hui, par exemple, de revendication ou de contestation?
Non, c'était plutôt d'évocation, c'est-à-dire que c'était pas avant, c'était souvent après, c'est-à-dire que le compositeur, par exemple, je pense à la musique, à cette musique, par exemple, concernant Charles VI, mais aussi à la musique de la Renaissance. Clément Jeannequin, qui était un grand compositeur du XVIe siècle, a décrit des faits historiques. Par exemple, il a écrit la bataille de Marignan. Il a décrit. Et donc, cette bataille, François Ier, et il a écrit une pièce un peu après, ou alors il y a la prise de Calais qui a été écrite par Guillaume Cotelet, où il y a un certain nombre de faits comme ça qui sont des faits descriptifs mais qui évoquent les choses plutôt que les suscitent en réalité. Je pense pas, parce qu'en réalité les compositeurs étaient au service de ces